Europe 1, en balade avec Angélique Kidjo, Frédéric Taddeï.
Bonjour, bon dimanche, c'est avec une star internationale, Angélique Kidjo, que nous partons en balade aujourd'hui. Angélique Kidjo, c'est plus de 30 ans de carrière, 3 Grammy Awards, 12 albums, considérée par The Guardian comme une des 100 femmes les plus influentes du monde et par Forbes Magazine comme la célébrité la plus importante d'Afrique. Elle a chanté partout dans le monde, devant 400 000 personnes à Rome pour le concert We Are The Future, organisé par Quincy Jones, au bal d'investiture de Barack Obama, au concert de lancement de la Coupe du Monde en Afrique du Sud, sous l'Arc de Triomphe le 11 novembre dernier, devant 70 chefs d'État pour le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, à Carnegie Hall, au Royal Albert Hall. Mais c'est chez elle, à Bonneuil-sur-Marne, qu'elle nous a donné rendez-vous.
Europe 1, en balade avec Angélique Kidjo, Frédéric Taddeï.
Bonjour Angélique Kidjo.
Bonjour monsieur.
Alors on croit que vous habitez New York, mais vous habitez ici en fait.
Oh, j'habite entre les deux moi. J'habite dans les aéroports.
C'est
donc
vrai.
J'ai deux points de chute, Paris et New York.
Et Cotonou, jamais?
Cotonou, toujours, une fois par an.
Oui. La capitale du Bénin,
ouais,
le pays, votre pays natal.
Absolument. Je dois y retourner parce que ma maman est encore vivante et toute sa tête, donc elle nous fait gamberger.
Alors vous habitez dans un petit pavillon de banlieue.
Absolument.
La vie est agréable ici?
Oh, certainement. Vous voyez comment c'est calme ici?
Oui.
Moi, quand je reviens de voyage, c'est tout ce qu'il me faut.
C'est presque
calme.
Étonnant. On vous surnomme la diva africaine. Et en fait, vous habitez dans une maison tout ce qu'il y a de plus calme. Avec le bruit des oiseaux.
Ah ouais, de deux côtés. À New York, c'est pareil. À Brooklyn, je vis dans un duplex où il y a un jardin, il y a les oiseaux et c'est calme. Parce que si je ne repose pas mes oreilles, je perds l'audition. Si je perds l'audition, je ne peux plus chanter. Donc forcément, il faut que je trouve un endroit qui est calme. J'ai vécu 6 ans dans le 3e et quand je suis tombée enceinte, j'ai dit à mon mari, moi je n'accouche pas dans Paris parce que tous nos copains qui avaient des enfants au même moment se plaignaient tout le temps des otites, des rhumes, des machins. Je dis alors laisse tomber, moi j'ai pas envie d'aller à l'hôpital tout le temps, je vais aller en banlieue.
Votre mari est français, personne ne le voit jamais, il n'y a pas de photo de lui.
Il ne veut pas.
Non, pourquoi?
Et dimanche, je suis pas Angélique Kidjo. Il faut me laisser tranquille.
Il est musicien, vous.
Il est musicien tout le temps. On est tout le temps fourré dans le studio. Lui, il adore le studio. Moi, j'adore la scène. C'est comme ça qu'on est complémentaires. Dès qu'il est en studio, je dis, ne m'appelle pas tant que c'est pas prêt. J'ai pas envie. Je déteste le studio. Et quand c'est prêt, il me dit, j'ai tout préparé. Le micro est mis. J'ai fait le niveau. Tu viendras et tout. J'arrive. Je dis, si tu commences à bidouiller ton ordinateur, je m'en vais. Il me dit, non, allez, je mets la musique et tu chantes. Sinon, moi, je ne fais pas. Mais quand on fait l'écriture, comme on n'est pas sûr, quand on écrit la musique, on n'est pas forcément sur l'ordinateur. Moi, je m'assieds, je mets mes idées au fur et à mesure dans l'ordinateur. Et j'écris mes paroles au fur et à mesure, dès que ça sort. Et puis, je suis en train d'écrire. Et lui, il est toujours là en train d'essayer de trouver de l'ordre dans mon bazar. Parce que soit c'est la mélodie qui arrive d'abord, soit c'est les percus qui arrivent. Et puis, je commence tout, je mélange tout. Au bout d'un moment, je ne sais plus qui est lequel. Et lui, il est là toujours à mettre de l'ordre dedans.
Mais il est blanc, votre mari. J'avais vu une photo de vous dans le journal avec un noir sous-titré le couple le plus célèbre d'Afrique. C'était qui?
Je sais pas, je sais pas qui c'est.
Il n'y a que toi, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Mr. Love.
On lui a donné tellement de nationalités. À un moment donné, on l'a dit, il était allemand. Après, on a dit, il est hollandais. Après, on a tout dit, sauf qu'il était français. Et mon mari me dit, moi, je dis rien. Moi, j'ai pas besoin de dire quoi que ce soit.
Il a rien dit quand il vous avait eu en photo avec l'autre type.
Non, il était mort de rire, en fait. Donc... c'est bizarre parce que les gens ils essayent toujours de comprendre qui il est et il est très très discret.
Vous avez chanté avec Peter Gabriel, avec Dr. John, avec Bono, avec Diane Reeves, Cassandra Wilson, John Legend, Dave Matthews, Celia Cruz,
vous allez avoir mal à la tête, hein.
David Byrne, Henry Salvador, Angoon, Stevie Wonder, Shakira,
tout le monde.
Qui chantait le mieux?
Tout le monde chante bien.
Vous ne voulez pas jouer avec personne?
Non, ce n'est pas ça. Parce que chacun des artistes dont vous venez de parler sont différents. Tout, complètement. Dans leur façon d'approcher l'écriture, dans leur façon de poser leur voix. Carlos, il ne chante pas, il joue à la guitare. Pour moi...
Ça, c'est Carlos Santana.
Carlos Santana, quand il joue à la guitare, c'est comme un chanteur. C'est-à-dire que ce n'est pas des accords qu'il joue, c'est des mélodies qu'il joue tout le temps. Il est tout le temps, tout ce qu'il chante dans sa tête, il le retranscrit directement sur ses doigts. Et sa façon de jouer à la guitare est unique parce qu'il n'a pas forcément été dans une école pour apprendre. Et c'est, moi, j'adore quand il joue. Quand il commence comment à jouer, tu commences à chanter une mélodie. Ce qu'il joue, c'est une autre mélodie, en fait. Alors que d'autres guitaristes sont beaucoup plus virtuoses dans les accords ou dans les trucs compliqués. Lui, c'est simple, sa voix directe et ça va voir au plexus quand ça sort.
Et Philippe Glass ?
Ah, Philippe Glass, c'est compliqué.
Mais il a composé pour vous, en plus.
On a fait deux collaborations ensemble. La première collaboration, on l'a faite il y a, je crois, 3-4 ans. C'était une commission de la Philharmonie de Luxembourg. Et en fait, c'était une idée qui est partie il y a quelques années de ça, où j'étais à New York pour ce qui s'appelle les rencontres EPAP. Et moi, on m'avait demandé, il y a quelques années de ça, de venir chanter. J'ai dit, bon, pourquoi pas, moi, ça ne me dérange pas. Et j'ai amené mon guitariste. Et on a fait trois, quatre chansons à guitare-voix. Et mon guitariste, il commence à me chercher partout, il me court après, il souffle, il me dit, mais Angélique, il ne faut pas que tu partes, il y a un monsieur qui veut te voir. Je dis, mais calme-toi, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'était Timothy Walker, le directeur musical du London Philharmonic. Et on l'a rencontré, il a dit, « Madame, je ne vous connais pas, je suis désolée d'être de mon ignorance, mais vous avez une voix qui m'a interpellée, et vous avez déjà pensé à chanter avec un orchestre ?» Et un jour, il vient jouer à New York avec l'orchestre de Londres, et on retrouve Timothy Walker, il me dit, « Mais j'ai pensé à un truc, il faudrait qu'on trouve un compositeur de musique contemporaine qui écrive une musique pour vous. » Quelqu'un comme Philippe, là, je dis, « Mais Philippe, c'est mon pote. » Il me regarde, « Ah, la mytho !» Je dis, « Mais non, c'est mon pote, j'appelle. » Et Philippe était à la maison. Je lui ai dit, écoute, Philippe, je suis avec Timothy Walker, qui aimerait te rencontrer parce qu'il part demain après-midi. Est-ce qu'on peut venir chez toi le matin? Il me dit, venez à l'heure du déjeuner, vers l'heure du déjeuner, on va prendre le café ensemble. On arrive, Philippe nous ouvre la porte. Il dit, quoi, c'est Philippe Glass qui nous ouvre la porte? On arrive, on s'assoit dans sa cuisine, c'est Philippe Glass qui lui fait son café. Le mec, il est complètement fou. Moi, je fais mon thé parce qu'il habituellement me dit, tu sais où est le thé, va faire ton thé. Le mec, il me regarde, mais c'est qui cette nana? Et il lui explique à Philippe là ce qu'il voudrait. Et Philippe dit, mais c'est simple. Angélique, tu me donnes une série de poèmes et tu choisis le thème. Donc, on est rentré, on a commencé à réfléchir. Moi, j'avais envie de parler de la création du monde d'après la mythologie des Yoruba. Et en fait, on a écrit tout ça. Et Philippe, quand je lui ai envoyé les poèmes, je l'ai traduit en français parce qu'il parle français. Je l'ai traduit aussi en anglais et je l'ai récité en Yoruba parce que c'est des tons dans les langues. C'est-à-dire que deux mots veulent dire c'est complètement deux choses différentes. Et ça a été notre première collaboration. Et la deuxième, c'est celle qu'on a faite en janvier pour les 100 ans de la Philharmonie de Los Angeles et pour les 15 ans du Disney Hall qui a été construit par Guéry.
Europe 1.
On se retrouve tout de suite avec Angélique Kidjo chez elle.
Frédéric Taddeï se balade avec Angélique Kidjo sur Europe 1.
Ce n'est pas dans les rues de Paris que nous retrouvons Frédéric Taddeï, mais chez son invité du jour, Angélique Kidjo, dans le Val-de-Marne.
Nous sommes dans la cuisine d'Angélique Kidjo, à Bonneuil-sur-Marne, avec vue sur le jardin et sur le studio d'enregistrement. On ira tout à l'heure dans le studio d'enregistrement.
Absolument.
Vous avez chanté pour le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, sous l'Arc de Triomphe, Bléou, votre chanson en hommage au tirailleur Sidi Galef. Vous étiez devant Emmanuel Macron, Angela Merkel, Vladimir Poutine, Donald Trump. C'était tout cela à 2 mètres de vous. Hein. Ça faisait quoi?
Même moins que 2 mètres. Ben, ça fait quoi? C'est des êtres humains. Hein. Moi, je dis que l'importance d'un homme, ça compte dans les actes qu'on fait. Ce n'est pas ce qu'on dit, forcément. Les paroles doivent être suivies d'actions. Et quand on se dit homme puissant ou homme d'État, y a des devoirs qui vont avec. Et moi, je suis venue là pour rappeler au monde que pendant la Deuxième Guerre mondiale et même pendant la Première Guerre mondiale, les Africains sont venus mourir pour une guerre qui n'était pas la leur parce qu'on croit profondément en cette famille humaine que nous sommes tous. Et que s'il y a besoin d'aide quelque part, nous sommes prêts à faire des sacrifices. Et aussi pas seulement pour rendre hommage à ces soldats-là, mais aux femmes qui sont restées, les veuves qui sont restées, celles dont les maris ne sont pas revenus, qui se sont retrouvées à élever leur famille toutes seules, et les séquelles de ça encore aujourd'hui. Et le fait qu'on n'en parle pas et le fait qu'on ne reconnaît pas l'effort humain qui a été fait pour venir mourir pour la paix dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et c'était un message de paix que moi j'ai porté. Il y a beaucoup de tensions aujourd'hui et il y a une volonté de certains chefs d'État de détruire le monde tel qu'il est aujourd'hui. Ce n'est pas à eux de décider s'ils doivent détruire le monde, c'est à nous, les peuples, de décider. Donc, est-ce que nous, citoyens de ce monde, nous sommes suffisamment organisés pour aller contre ceux qui veulent mettre un coup d'arrêt à la démocratie, même imparfaite que nous avons, et pour aller vers la dictature? Moi, j'ai vécu la dictature chez moi. Et je sais ce que c'est qu'une dictature. Ceux qui ne le savent pas le romantisent et le trouvent fantastique. C'est l'horreur, c'est l'enfer sur Terre. C'est fou. Moi, c'est comme si j'avais eu la prémonition de ça quand la Chine s'est ouverte et tout le monde a commencé à se ruer là-bas. Je me suis dit, un jour, les gens auront envie d'avoir la dictature chinoise parce qu'ils ne voient que l'argent que la Chine fait. Mais à quelles conditions? Est-ce que c'est l'argent qui est le plus important ou c'est la liberté des êtres humains?
À environ 2 mètres de vous, quand vous chantiez sous l'Arc de Triomphe, il y avait Donald Trump qui vous regardait. C'était drôle parce que je me suis dit, est-ce qu'il se souvient que quelques mois auparavant, vous chantiez lors de la marche de protestation des femmes à Washington le jour de tous les rassemblements contre son investiture?
Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il savait qui j'étais. Il n'en avait rien à faire. De toute façon, ce qui l'intéresse, c'est lui-même. Donc, je ne sais même pas s'il était au courant de qui j'étais. Peut-être qu'il est au courant, mais moi, je n'ai pas chanté contre Donald Trump. J'ai chanté pour les droits des femmes. J'ai chanté pour le respect des femmes. Parce que quand on a quelqu'un qui occupe une position aussi importante et qui dénigre les femmes, c'est dangereux pour tout le travail qui a été fait en amont pour les droits des femmes, pour voter, le droit à l'avortement et tout ce qui s'ensuit. Donc moi, je suis toujours dans une logique claire. À partir du moment où la plus grande majorité de cette humanité est faite de femmes, on ne peut pas nous prendre pour moins que rien. C'est tout. Et c'est nous qui décidons ce que nous voulons faire avec nos corps. Quand je suis les discussions au Congrès américain ou quand ils parlent de droit de vote, il faut fermer ceci, il faut fermer cela. Je dis, les mecs n'ont jamais été enceintes, donc ils ne savent pas ce que c'est. Et la femme est tombée enceinte toute seule. Et le mec, il ne veut pas aider la femme à lever l'enfant. Qu'est-ce qu'on lui fait à lui?
Alors, vous n'avez pas chanté contre Donald Trump, mais vous aviez bien chanté pour Barack Obama au bal de l'investiture.
Moi, je m'en demandais, en tant qu'Africaine, parce que c'est le bal d'investiture des Africains pour Barack Obama. C'est en tant qu'Africaine que j'ai été chanter là-bas parce qu'on me l'a demandé. Je ne connaissais pas Barack Obama avant de chanter et c'était un moment historique. Parce que dans ce pays où le racisme est inscrit dans leur constitution américaine, c'était quelque chose à laquelle je n'avais jamais pensé. Et c'est toujours moi, mon approche est toujours ça. Ce n'est jamais par rapport à la couleur de peau des gens. Ce n'est jamais par rapport à ça, parce que je n'ai pas été élevée dans une famille où on m'a dit, parce que tu es noir, tu ne peux pas faire ci, ou parce que le blanc, jamais. Mon père a dit, l'intelligence n'a pas de sexe, n'a pas de couleur, n'a pas de nationalité, n'a pas de langue. À partir du moment où tu utilises ton intelligence et que tu peux discuter avec tout le monde de tous les sujets, on peut ne pas être d'accord, mais jamais dans la haine ni dans la violence. Mon éducation, c'est ça. Donc, moi, j'arrive ici, quand les gens me font des remarques racistes ou des blagues racistes qui ne me font pas rire, on me dit que je n'ai pas d'humour. Je dis, mais je ne trouve pas ça marrant parce que c'est ton ignorance qui me fait pitié. C'est tout.
Vous n'avez pas d'humour, vous, ça m'étonnerait.
Ah si, j'ai de l'humour, mais quand on commence à me faire de l'humour raciste, ça ne me fait pas rire du tout.
Du tout.
Pas du tout.
Europe 1.
Eh bien, Angélique Kidjo, vous allez nous faire visiter le studio d'enregistrement.
Ouais, vous allez voir où je m'enferme, que j'aime pas aller du tout. Je déteste le studio.
Ah oui,
mais
c'est vrai.
Ah non, je préfère la scène. Moi, j'ai commencé ma carrière sur scène à 6 ans. Et la scène, pour moi, a toujours cette magie et cette énergie, cette puissance que le studio n'a pas. Mais le studio est un passage obligé pour aller à la scène.
Le passage obligé, c'est un petit escalier
voilà.
Qui descend.
Qui descend dans le jardin.
Puis dans le studio.
Et dans le studio. Et voilà, fais attention, ça pleut et ça glisse.
Frédéric Taddeï se balade avec Angélique Kidjo sur Europe 1.
C'est à Bonneuil-sur-Marne, chez Angélique Kidjo, que nous emmène Frédéric Taddeï aujourd'hui. Et la chanteuse béninoise n'est pas toute seule.
Nous voilà dans le studio d'enregistrement personnel d'Angélique Kidjo, où on a la chance d'avoir coincé son mari. Normalement. Bonjour.
On va trop compter sur lui pour parler, je vous signale.
Bonjour Jean.
Je suis un peu timide.
Il paraît que vous restez enfermée ici toute la journée, elle préfère la scène, m'a-t-elle dit.
Voilà, c'est pour échapper à Angélique.
Échapper à Angélique, ça va être ça. Après, tu viens manger. Alors, si tu veux m'échapper, tu ne viens pas manger. Hein.
Mais ce n'est pas ici que vous avez enregistré le disque en hommage à Célia Cruz. Célia, là, qui vient de sortir.
Une partie ici, une partie à New York, parce que des deux côtés, on a un studio.
Et quelle est la différence entre le studio que vous avez à Brooklyn et celui que vous avez ici, Jean ?
Bon, c'est à peu près pareil, hein. C'est à peu près le même, sauf que voilà, les micros sont différents.
Le son n'est pas le même ?
Voilà, le son des micros est différent et des préamplis, donc mais c'est un petit peu le hasard qui fait que telle chanson est enregistrée à Brooklyn et telle chanson à Bonneuil.
Enfant, vous aviez 6 ans que vous avez commencé à chanter, Angélique, mais est-ce qu'il y avait des chanteuses africaines ? Est-ce que vous aviez comme modèle des chanteuses africaines ?
Il y avait des chanteuses traditionnelles africaines. Moi, j'ai commencé à écouter les chanteuses traditionnelles de mon pays et les chanteurs traditionnels de mon pays. Et moi, j'étais fascinée par cette capacité qu'elles avaient de chanter sans micro et qu'on les entende partout, quoi. Dans la cour ou dans la maison, c'est cette puissance, c'est cette voix qui est projetée sans micro, mais qui a une résonance, une richesse, une profondeur incroyable. Et moi, j'étais là, je me disais... Mais comment je vais faire ça avec ma toute petite voix là ?
Mais vous avez souvent dit que c'était mal vu pour une femme de chanter en Afrique à l'époque.
Ah oui, c'est très mal vu quand on est sur scène, pas quand on chante les chansons traditionnelles.
Ah oui.
Quand on est pendant les cérémonies et qu'on chante ou quand on décide de chanter avec tous les instruments traditionnels, c'est pas mal vu, au contraire. Parce que notre histoire est orale, elle est racontée et elle est chantée aussi. Donc c'est quand on décide de se retrouver sur scène avec les instruments du diable, comme ils appellent la batterie, les claviers, les guitares, la basse. Parce que la vague sexe, drogue and rock and roll est arrivée en Afrique. Les parents n'ont pas aimé du tout. Ils ont dit, mais c'est quoi ce truc-là ? Il faut se droguer, ils sont tous en train de s'embrasser de partout. C'est quoi ce bordel ? Et ça, c'est resté, malgré le fait que le rock n'a certainement jamais pénétré la culture de l'Afrique en général, là, sauf l'Afrique du Sud, et peut-être l'Afrique francophone est restée un peu sourde par rapport à ce genre de musique. C'est pour ça que j'ai fait
mais
l'album
en même temps, le rock était une musique noire au départ. Elle venait d'Afrique comme toutes les autres, comme le jazz, comme le blues.
Mais eux, ils n'ont pas aimé la batterie qu'on m'a mis
comme
dedans.
Comme la salsa, comme non, toutes les amis.
Non, mais ceux qu'ils n'aimaient pas, c'est la batterie, les boum, boum. Ils disent ça, c'est la danse des blancs. Ça, nous, ça ne marche pas avec nous.
Comment vous êtes vu là-bas, Jean, quand vous êtes avec Angélique Kidjo hein ?
Alors, on m'appelle Monsieur Angélique.
C'est très joli.
Et ça, son père déteste. Il dit, et moi alors ? Je dis, mais c'est pas par rapport à toi, c'est par rapport à moi en Afrique, là. Attention, là.
Vous aviez raconté que vous aviez chanté devant les chefs d'État de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Vous étiez très jeune à l'époque. Et alors, ils vous avaient vu comme le diable ?
Ah non, mais moi, c'est que l'impression que j'ai eue, parce que moi, je ne fréquentais pas les hommes politiques et je connaissais rien. Moi, je faisais ma musique, j'avais fait mon premier disque. J'étais venue à Paris, j'avais enregistré mon disque en 24 heures et je suis repartie à l'école. J'étais en classe de première quand j'ai fait ça. J'ai fait boum boum, je suis partie. Aussi proche de voir les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest, jamais ça ne m'était arrivé. Mais le sentiment que j'avais, c'était d'être sale. Parce qu'ils avaient des regards salaces. Ils ne voyaient pas l'artiste, tout ce qui les intéressait. Oh, elle chante, elle doit être facile à mettre dans son lit. C'est un regard...
C'est ça, toujours la chanteuse.
Ah non, mais c'est un regard qui salit. Moi, c'était dégoûté, mais dégoûté à un point où je me suis dit, mais c'est terminé, moi, je ne fais plus jamais ça. Si c'est ça, chanter, je ne chante plus, quoi.
Et la foule saoule comme il se doit. Les bonnes gens vous montrent du doigt. Toujours ce que tu crois, même s'ils disent que ça ne se fait pas. Vous pouvez prier, mais ne cédez jamais.
Pourquoi vous avez eu envie de rendre hommage à Célia Cruz ?
Mais Célia Cruz a été pour moi la première voix féminine de la salsa. Parce que la salsa, si on veut faire la liste des musiques de salsa qu'on connaît, c'est souvent les mecs qui chantent. Irakere, Aragon de Cuba, tous, Fania All-Star, tous, c'était des mecs. Donc, pour moi, en tant que jeune fille, la salsa, c'est un boulot de mec, quoi. Et Célia arrive avec Kimbara et elle fout le bazar, quoi. Je dis, alors là, celle-là, aucun mec ne peut chanter cette chanson-là. Elle a foutu une baffe. Et j'étais là, ouais, génial. À partir de cet instant-là, je me suis dit, en fait, rien n'est impossible à qui que ce soit. Et comme mon père avait l'habitude de dire, tout d'un coup, tout ce que mon père me dit, et que j'écoutais d'une oreille, ça partait de l'autre côté, je me disais, mais pff, qu'est-ce qu'il me raconte avec ce truc? Le talent n'a pas de sexe. Et j'avais d'accord, et papa, mais c'est les mecs qui se font tout. Et dit, si tu penses comme ça, tu n'arriveras à rien. Donc, pour moi, tout d'un coup, ça a un sens. Je me dis, si une femme peut chanter la salsa, en tant que femme, je peux chanter toutes les musiques.
Vous l'avez rencontrée, Célia Cruz?
Je l'ai rencontrée à Paris. Par le biais de Rémi Colpacopoul, qui
Radio
m'appelle.
Nova.
Radio Nova. Donc, il m'appelle un soir. On était dans le salon avec mon mari. Vers 20h, il me dit Célia joue au Méridien de Montparnasse ce soir, tu veux venir? Je lui dis Rémi, si c'est une blague, ce n'est vraiment pas marrant. Il me dit ce n'est pas une blague, c'est sérieux. On a pris la voiture, on a tracé à Montparnasse, et tapé à la porte de la loge. Elle avait tout préparé. Célia m'attendait. Tous les musiciens étaient déjà sur scène, inclus le mari de Célia, qui était le directeur musical de son groupe. Et on rentre, moi je ne parle pas espagnol, je vois Célia Cruz, j'étais là. J'arrivais pas à parler, je la regardais avec les yeux qui me sortaient de la tête. Et puis Rémi lui dit, je suis une chanteuse africaine que je l'adore. Hey, dis-moi, man africaine. Je dis, ouais, mais qu'est-ce qu'elle dit là? Rémi dit, elle dit que t'es ta soeur africaine. Je dis, oh, d'accord. Et je dis, qu'est-ce que tu lui dis? Je dis, je peux rien dire, je peux chanter. Dis, vas-y, chante. Et j'ai commencé mon yaourt de Kimbara. Alors là, elle était morte de rien. Dit.
C'était en phonétique. Donc.
Ça n'avait rien à voir avec ce que je fais maintenant. Elle m'a dit, bon, d'accord, je t'invite sur scène chanter ça. Je regarde Rémi, je dis, elle est sérieuse. Elle me dit, ben, tu le dis.
Vous avez chanté ensemble alors?
Non, elle m'a invité sur scène, elle m'a affilé le micro, elle m'a dit vas-y. Son mari me regarde d'abord. Quand je monte, son mari fait ça.
Je veux dire, il vous suit du regard, hein, mais, je le dis pour.
Mais on n'a pas répété ça. Et elle lui dit un truc en espagnol, et elle a dit bon, d'accord. Il a commencé à jouer. Moi, j'ai commencé mon yaourt. J'ai commencé à faire mon truc. Et pendant tout le temps, je chantais mon yaourt. Elle était derrière moi, morte de rien. Littéralement, et je me suis dit. Angélique, ça ne doit pas être très génial ce que tu fais. Te fous pas là, on dégage de là. J'ai laissé le micro et je me suis barré.
Et depuis, vous avez appris l'espagnol pour
non,
faire.
J'ai appris l'espagnol pour chanter ça, ouais. Je pour comprends mieux ça, l'espagnol.
Célia Cruz, vous écoutez, moi, c'est la chanson que je préfère dans l'album, c'est Sahara.
Ah oui, Sahara, c'est très, très beau. J'ai voulu, en fait, reprendre aussi les chansons de Célia Cruz des années 50 quand elle a commencé. Quand elle a commencé à chanter, elle a commencé à chanter des chansons des Orishas Yoruba. Les chansons de la Santeria. Et son africanité qu'elle n'a jamais rejetée a toujours été quelque chose qui a créé un lien entre elle et moi, sans que j'ai pu le lui dire en mots, en fait. Et quand on a commencé avec David Donatien, le producteur de l'album, à choisir les chansons, le parti pris qu'on avait dès le départ, c'est ramener Célia en Afrique, la ramener dans des endroits d'Afrique où elle n'a pas été. Mais par la musique. Donc, l'amener dans le désert, puisqu'elle chante une chanson qui s'appelle le Sahara, elle n'a jamais mis les pieds là-bas. Donc, forcément, pour faire ce voyage avec Célia, qui n'est plus là physiquement, mais musicalement, on a été chercher dans les instruments un peu partout, africains, un peu en dehors de l'Afrique, pour la faire voyager encore un peu, pour que les endroits qui ne la connaissent pas puissent découvrir aussi cette musique-là, en se disant, mais c'est qui Célia ?
Inmensa región. Arenosa, hermana de Egipto y Arabia, infierno de sal y espejismo, Sahara eres tú, eres tú. Sahara, aquí va a vivir. sacerdotisa de amor.
C'était Sahara, la chanson de Celia Cruz, interprétée par Angélique Kidjo sur son nouvel album intitulé sobrement Celia.
Frédéric Taddeï se balade avec Angélique Kidjo sur Europe 1. Europe 1.
Est-ce que vous m'entendez?
Bah oui, oui, très bien, oui.
Oui, bonjour à votre sympathique équipe.
Du lundi au vendredi à 8h40, dans la matinale de Nikos Aliagas.
Ici donc Alain Juppé, votre consultant spécialiste en branlée. Je survole en ce moment la route du four. Le four que va se prendre à des oiseaux aux européennes.
Nicolas Canteloup tacle l'actualité.
Emmanuel Macron, bonjour.
Bonjour à toutes et à tous. Oui, forcément, on va beaucoup moins rire avec moi, vous l'avez compris.
La revue de presse de Nicolas Canteloup, c'est du lundi au vendredi à 8h40 sur Europe 1. Avec le service après-vente Peugeot, entretenez l'émotion.
Passer des vacances d'été en famille avec votre Peugeot, c'est bien sûr aller à la plage pour vous rafraîchir ou emprunter de petites routes ensoleillées. Mais c'est surtout toujours arriver à destination frais et dispo grâce à une climatisation efficace.
Prenez rendez-vous sur Peugeot.fr pour bénéficier de 30 euros de remise sur la recharge de climatisation. Et à chaque intervention en atelier, bénéficiez d'un an d'assistance offert. Voir conditions en ligne.
Jusqu'à midi et demi, on en apprend plus sur Angélique Kidjo grâce à Frédéric Taddeï. Et en plus, la chanteuse lui a ouvert les portes de chez elle.
Nous sommes toujours dans le studio d'enregistrement d'Angélique Kidjo à Bonneuil-sur-Marne avec son mari Jean Ebraille. Pour vous, toute la musique du XXe siècle et maintenant du XXIe, c'est de la musique d'origine africaine?
Même au-delà.
Même avant.
Même d'avant.
Oui, un jour, vous m'aviez dit que Jean-Sébastien Bach, c'était très africain pour vous.
Non, mais ce qu'il y a, c'est que les Africains sont arrivés en Occident, dans les Caraïbes et en Amérique, pas parce qu'ils ont pris un billet d'avion ou un bateau pour y arriver. Ils ont été forcés de partir pour aller travailler sans être payés, pour créer les richesses des pays riches d'aujourd'hui. Et pour pouvoir les réduire en esclavage, il a fallu les déshumaniser, nous refuser nos cultures, notre civilisation, qu'on n'avait pas de civilisation. J'ai lu quelque part que les rois allaient dire aux églises, aux papes, que c'était pour aller évangéliser les sauvages. Nous étions les sauvages. Et ceux qui se comportaient vis-à-vis de nous comme des sauvages, c'est eux qui veulent nous civiliser. C'est un truc de fou quand on écoute et quand on regarde l'histoire et qui c'est qui raconte l'histoire. Donc, quand on part de chez soi et qu'on n'est pas un bébé et qu'on a déjà grandi dans une culture qui est riche, qui vous a rendu fier parce que on a construit des choses. Beaucoup de gens ne savent même pas que Cambridge et Oxford ont été copiés sur l'architecture de l'université de Marrakech. Exactement. C'est toujours ce mensonge historique qui permet aux gens aujourd'hui de toujours diminuer l'impact que la culture africaine a eu dans la musique du monde et dans plein d'architectures, parce que les premiers esclaves qui sont partis, ce n'était pas les gens ordinaires, c'était des médecins, c'était des scientifiques, c'était des architectes. Tout était parti pour venir construire et amener une connaissance qu'on ne reconnaît plus aujourd'hui d'origine africaine. J'ai grandi en Afrique et je connais la susceptibilité des gens. Je connais la façon dont en Afrique, un mot peut vous faire un ennemi à vie avec un mot. C'est-à-dire qu'il y a des subtilités de la culture que les gens ne comprennent pas. Ils arrivent avec de bonnes volontés, je ne critique pas, mais ils font toujours des erreurs sur le parcours. On ne peut pas aider quelqu'un qui n'a pas envie d'être aidé. On ne peut pas amener une solution à quelqu'un qui vit une réalité dont vous ne connaissez rien. Et quand on ne respecte pas la personne qu'on veut aider, l'aide n'a pas d'effet. Donc, quelque part, tout le monde se sent légitimisé à nous traiter, à nous donner des noms comme ça leur plaît. Et moi, ça me fait rire, ça me fait sourire. Moi, ça ne m'énerve même pas. Parce que je me dis, mais si tu pouvais comprendre une seconde qu'on a beaucoup plus de choses en commun que ce que tu es là en train de me dire, tu te tairais.
Angélique Kidjo, pourquoi vous avez des cheveux blonds?
Ah, ça c'est une autre histoire.
Très très court, il faut dire, presque rasé, d'accord, mais blond.
D'accord, il y a deux choses qui se sont passées en même temps. J'ai fait une interview en Suisse avec une journaliste qui revenait de l'Afrique et qui me disait « Oui, mais vous parlez des femmes africaines, mais pourquoi les femmes africaines se défrisent les cheveux, mettent des perruques, machin ?» Je lui ai dit « Mais madame, vous êtes allée en Afrique, vous êtes toute bronzée là, vous êtes restée au soleil ou vous restez à l'ombre ? Vous pouvez vous bronzer, mais nous on peut faire des cheveux comme on veut. » J'ai dit, la prochaine fois, vous verrez, je serai blonde ou brune ou rousse ou bleue ou violette, je ne sais pas. Donc, je suis revenue à New York et m'avait demandé de tourner. J'avais chanté sur le Roi Lion 2 en anglais. Et pour la vidéo, j'ai été chez un coiffeur parce qu'il fallait payer la coiffure, un truc, machin. Moi, je dis, je n'ai pas de cheveux, vous allez payer le coiffeur. Le coiffeur qui a coûté 200-300 $, mais moi, je vais aller chez le barbier du coin, quoi. Ça, il dit, non, on ne fait pas ça et tout. J'ai dit, ouais, c'est Disney, vous avez l'argent, on y va. Donc, je vais dans un salon de coiffure qui s'appelle Warren Tricomi. Et c'est un mec qui a... J'ai dit, mais je n'ai pas de cheveux, je ne sais pas pourquoi m'avoir ici. Il me dit, j'ai une idée. Tout d'un coup, il me dit, je vais te teindre. J'ai dit, mais tais-moi en blonde. Il m'a dit, d'accord. Et voilà ce qu'on a fait.
Et vous avez bien?
Ah, j'adore. Ah, j'adore.
Il paraît que quand vous étiez enfant, vous pensiez que vous étiez un garçon, Angélique Kidjo. Ouais, vous aviez 5, combien de frères? Vous étiez 10, hein?
7 frères.
7 frères.
Et puis dans la rue où j'ai grandi, il y avait beaucoup plus de garçons que de filles, en fait. Donc, l'équipe de foot, des fois, quand il n'y avait pas assez de garçons, on me disait, toi, tu tiens le goal. J'ai dit, mais pourquoi je ne peux pas? Je lui ai dit, tu tiens le goal, je te dis. J'ai dit, bah, d'accord. Et je tenais le goal. Et quand je vois le mec arriver, je dis, tu t'arrêtes tout de suite, tu te casses ta gueule.
Vous étiez bagarreuse comme ça.
Allez, je dis, mais toi, tu mets pas le... Moi, mon camp, là, tu mets pas un but. Hein. Allez, dégage. Le mec, il m'a regardé, il dit, mais c'est pas possible.
Pas que vous faisiez du karaté, c'est vrai?
Avec mes frères, ouais. C'était, c'est en fait, pas du karaté de combat, mais c'était pour m'apprendre à me défendre, en fait. Parce que j'étais petite, mais minuscule. Mais on m'appelle patte de mouche et les serpents sans fesses. Moi, je disais minuscule, mais ah, c'est un truc de fou. Alors, j'étais le punching ball à l'école, au primaire et tout. Je reviens à la maison, je pleurais tout le temps. Mais quand j'étais avec mes frères, je ne pensais pas que j'étais une fille. Hein. Moi, je ne grimpais pas aux arbres avec eux. Il faisait du vélo, je faisais du vélo. Il faisait quoi qu'il faisait, je faisais. Et ma maman était là, elle me dit, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Je voulais une fille et j'ai un garçon manqué. Mon père lui dit, mais laisse-la tranquille. C'est mon père qui a dit à ma maman, laisse-la faire du foot. Elle dit à son mari, Franck, t'es fou quoi? C'est une fille. Elle dit, mais non. Elle va aller faire le foot pour apprendre à travailler en équipe. Comprendre que quand on veut réussir, le plus important et le plus difficile, c'est de s'entourer de bonnes personnes qui ont la même vision que vous. Et moi, j'ai dit, bon, moi, tant que je suis avec mes frères et que je ne fais pas mes devoirs, hein, tout ce qui me met en dehors des devoirs, je prends direct. Donc, j'allais jouer au foot. Et j'avais mon tibia, mais c'est un truc de fou. J'avais les tacles, les machins. Au bout d'un moment, je me rentrais dans le jeu et tout. Et je me faisais, mais je reviens à la maison. Mon maman me regardait et me dit, où sont tes chaussures? J'ai dit, je ne sais pas. J'avais perdu mes chaussures.
Et les vêtements, c'est important pour vous maintenant ou toujours pas?
Les vêtements, c'est...
Si votre mari dit oui.
Bah oui, mais lui...
il dit oui, il hoche la tête.
Ah ouais, mais c'est parce que c'est moi qui lui achète ses vêtements, parce que lui, il n'achète rien, lui.
Ah oui, les vêtements sont importants pour les siens.
Hein, tu veux te balader nu?
No comments.
C'est vrai qu'il n'est pas bavard.
Non, ouais, il est bavard quand ça l'intéresse. Quand il s'agit de parler de musique, il ne s'arrête plus. Hein.
Ah oui.
Oh là là, parler de musique, ordinateur, se lève là, c'est la première chose qu'il touche, c'est son ordinateur. J'ai dit, bah d'accord. Je suis pas jalouse, hein, mais c'est juste pour dire. Chacun a ses trucs quand il va s'acheter ses trucs. Ce studio-là, il a passé un temps fou. Achetez-les. Et tu aimes ce tapis? Je vais y aller là. Il a fait tout le tour de Paris pour trouver les machins. Ouais. Chacun achète ce qu'il aime. Donc je dis, vas-y, vas-y, achète ce qu'il faut pour le studio. Par contre, j'ai choisi les canapés avec. Bon, je mets la touche finale, finale après.
Europe 1.
On se retrouve dans un instant avec Angélique Kidjo.
Frédéric Taddeï se balade avec Angélique Kidjo sur Europe 1.
Comme chaque dimanche, vous êtes en balade avec Frédéric Taddeï et aujourd'hui on le retrouve chez Angélique Kidjo pour parler bien évidemment de musique.
Nous sommes dans le studio d'enregistrement d'Angélique Kidjo et de son mari Jean Hébraï. Il y a quelques prix qui sont là, il n'y a pas vos Grammy Awards, ils sont rangés où les Grammy?
Je les ai laissés à New York, c'est trop compliqué.
C'est pas si lourd.
Si.
C'est lourd.
Si, c'est très lourd, mais la première fois on me l'a mise quand j'ai eu mon Grammy en 2007. Lors de la cérémonie, on m'a mis ça dans la main, j'ai dit merde, ça pèse une tonne. Dans la télé, j'ai dit merde, ça pèse une tonne, ça. Et puis ils ont enlevé le merde. J'ai dit non, ça, on dit pas ça à la télé.
Là, il y a Angélique Kidjo, héroïne du Bénin, fierté et reconnaissance. C'est moins lourd, mais c'est pointu. Hein. Oui, il y a World Pioneer Award, prix Adami, artiste musicienne, prix All Africa, leadership féminin. Ça doit vous plaire, ça, leadership féminin?
Ouf. Leadership.
Elle aime les prix, Jean?
Elle en reçoit beaucoup. Mais alors, l'allemand, elle l'a fait tomber sur scène. Ah ouais, elle a failli s'écraser le pied.
Des après. Prix bizarres, là, qui tiennent pas. Attends, tu prends le truc et ça se barre. Non, mais attends, c'est quoi ce truc? Attends, touche ça, quoi.
C'est
non,
la taille d'une grosse boule de pétanque.
Hein. Ah ben voilà, on va aller jouer à la pétanque tout à l'heure. T'as vu comment c'est lourd?
Ouais, ouais, c'est lourd.
Après, il faut mettre ça dans la valise pour rentrer chez soi. Non, mais ça va pas, non? Non, mais je veux bien les prix, mais il faut payer les transports aussi. C'est pour ça que j'amène pas les grammes ici.
Des disques d'or, vous en avez?
Oui, on en a où? Quelque part, j'en ai quelques-uns du Danemark. Et puis, moi, je me suis connu, ça m'intéresse pas.
Ça m'intéresse pas du tout. Une fois, un journaliste français avait demandé à Angélique, je vois sur votre page Wikipédia que vous avez reçu 50 prix. Est-ce que vous auriez préféré avoir vendu 50 millions d'albums?
J'ai dit non. Parce que 50 millions d'albums, c'est d'autres maux de tête. Les gens veulent être le succès, mais le succès vient avec beaucoup de...
D'ennuis.
D'ennuis, parce que moi, je connais beaucoup de gens qui ont le succès et ça change les gens. Et ça demande aussi une organisation de dingue. Il faut engager plein de gens. Moi, on va la responsabilité des gens, je ne peux pas. Hein. C'est pour ça qu'on me dit, va faire de la politique. J'ai dit, non, moi, pas question. Je veux pas politique.
Vous, même si vous n'avez pas vendu 50 millions de disques, on peut dire que vous avez eu du succès. Quand
absolument.
Ouais.
Ce n'est pas seulement les ventes de disques qui font le succès. Mais malheureusement, c'est comme ça que ça se passe dans nos métiers.
Et on compte plus les disques vendus que les gens qui sont venus vous applaudir en concert, par exemple.
Exactement.
Et vous préféreriez l'inverse?
Je préférais l'inverse parce que quand on chante, par exemple, quand je chante j'ai fait trois ou quatre concerts à Carnegie Hall, sold out. C'est ça, quoi. C'est à des endroits mythiques comme ça qui sont. Et quand on chante aussi dans des arènes devant 20 000 personnes, c'est assez impressionnant.
Je crois que le plus grand que
j'ai fait, c'était à Rome avec Quincy Jones.
Oui, 400 000, là.
Oh, purée, j'ai eu la trouille.
C'était au Cirque Maxime?
J'avais la trouille de ma vie. L'après-midi, il n'y avait personne. J'arrive le soir, j'ai fait demi-tour, je voulais m'enfuir. Et il avait Quincy et Oprah. Il me dit, oh non, tu ne reviens pas ici. Tu retournes là-bas. Je dis, mais je ne veux pas y aller, il y a trop de monde. Il dit, tu y vas. Et je dis, retourne.
Quincy Jones, vous deviez chanter pour son anniversaire aussi.
Absolument. Hein?
Vous
Il fait partie de ces artistes aussi américains qui ont soutenu ma carrière au départ. Il venait toujours à mes concerts. Chaque fois que j'étais à Los Angeles et qu'il était à Los Angeles, il venait toujours à mes concerts.
Mais il est formidable, Quincy Jones. Il s'est toujours intéressé, quelle que soit l'époque, il s'est toujours intéressé au nouveau.
Ah, c'est clair, toujours. Il a une oreille quand même. Hein. J'ai passé une après-midi. J'étais censée passer une heure avec et j'ai fini par passer toute l'après-midi chez lui. Et il m'a raconté sa vie. Il m'a montré son cahier. Combien il a commencé à gagner en tant qu'arrangeur et musicien. Il a commencé à gagner dans les 5 dollars jusqu'à... Le plus qu'il a été payé, c'était 20 dollars. C'était beaucoup d'argent. Non, mais c'est un truc de fou, quoi. Il a une vie... Plusieurs vies, quoi, des décennies différentes.
Avec Frank Sinatra.
Il me racontait l'anecdote avec Frank Sinatra.
Avec Michael Jackson.
Que quand Frank Sinatra est arrivé, quand il lui a demandé de faire un arrangement pour son album avec Count Basie, l'orchestre de Count Basie, ils étaient tous là prêts à l'enregistrer. Et puis Frank Sinatra rentre, il fait « Quincy, one take, right ?»
Une seule prise.
Oh, mais la pression. Et le mec, il dit... Oui, oui, oui. Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Et heureusement, ils ont assuré. C'était la chanson « Fly me to the moon ». Quand on est aujourd'hui, one take. J'ai dit « Ah, tu me dis ça, je commence à trembler, moi. Je ne fais plus rien, moi. »
Chanson d'ailleurs qu'on a passée quand les Américains sont allés sur la Lune.
Absolument, absolument.
C'était celle-ci. Quincy Jones, quand il vous pousse pour aller chanter devant 400 000 personnes, si c'est Quincy Jones, vous l'écoutez quand même. C'est qui sait que vous en êtes capable?
Oh, mais ça a été dur. Wow,
vous étiez là, Jean?
Oui.
C'est comme une mer, en fait, quoi, sans fin. La mer, ça ne me fait pas peur. Je peux rester au bord de la plage et regarder l'horizon pendant des heures. Mais là, ça grouillait de partout.
Eh bien, remontons encore plus loin. Malaika, la chanson de Myriam Makeba. C'est sur l'un de vos premiers disques en Europe. Hein,
Logozo.
Sur Logozo, qui a été un énorme succès. C'était produit par Chris Blackwell.
Absolument.
Le producteur de Bob Marley. Mm-hmm. On vous écoute.
Malaika, nakupenda malaika, malaika, nakupenda malaika, ningekuwa mariwe, ningekuwa dada. Nashinga na manisi na we, ningekuwa mamalaika. Nashinga na manisi na we, ningekuwa mamalaika. Esa Zasudu waduhu nyengu Esa Zasudu waduhu nyengu Namini fo nyeji Kingana mwezi nyo Nashi Nashinga na manisi na we Ningekuwa mamalaika Eba Kirege Kukuwaza kirege Kijege Kukuwaza na kirege Na minifo nyeji Kigana mwezi nyo Na shinga na manisi na we Jongli Ningekuwa mamalaika Na shinga na manisi na we Ningekuwa mamalaika Esa zase du wa du honyungu. Zase du wa du honyungu. Na mini fo nyeji. Ki, ki nga na mwezi nyo. Na shinga na mani sina we. Nyinga kuwa o mama laika. Na shinga na mani sina we. Ningekuwa mama laika. Ningekuwa mama laika. Ningekuwa mama laika.
C'était Malaika chantée par Angélique Kidjo. Ça parle de quoi cette chanson?
Ma voix a quand même changé beaucoup de ce moment-là. Maintenant, il y a ça parle d'une histoire d'amour vraie, d'après ce que j'ai entendu. Malaika veut dire mon ange. C'était l'histoire d'un paysan qui est tombé amoureux de la femme de l'homme le plus riche du village. Et son père avait un autre plan pour elle. Quand elle a dit qu'elle était amoureuse de ce mec-là, son père a dit, ce bouseux-là, j'en veux pas, tu vas pas l'épouser. Et le mec, il a dit, bon, mais d'accord, c'est pas grave. Donc, il a écrit cette chanson-là, il l'a chantée pour elle. Et qui veut dire, je t'aime, mon ange, je ne suis peut-être pas riche d'argent, mais toute ma vie jusqu'à mon dernier souffle, je t'aimerai toujours et personne ne t'aimera aussi fort que moi. Et quand elle a entendu ça, elle a dit à son père, bouseux peut-être, mais il m'aime pas pour mon argent, il m'aime pour moi, j'y vais, voilà.
Vous êtes mariés depuis combien de temps tous les deux?
Ah, ça va faire 32 ans en août.
Pas mal.
Europe 1.
Eh bien, on va quitter votre maison et votre studio d'enregistrement. On se dirige vers Saint-Maur-des-Fossés. On va appeler un taxi.
Oui, si vous voulez. J'ai pas de place dans ma voiture.
Frédéric Taddeï se balade avec Angélique Kidjo sur Europe 1.
Reçu Frédéric Taddeï chez elle, Angélique Kidjo veut lui montrer un endroit qu'elle aime beaucoup. On les retrouve donc sur la route.
Nous sommes en voiture avec Angélique Kidjo, direction Saint-Maur-des-Fossés, toujours dans le Val-de-Marne. J'ai l'impression que vous avez rencontré la terre entière, Angélique. C'est l'impression que vous avez, vous aussi?
Non, j'ai encore envie de rencontrer plein de gens. J'en rencontre tous les jours des gens qui sont connus comme les gens qui ne sont pas connus. Et ce qui est très intéressant, c'est les gens qui ne sont pas connus et leur perception de ce que je fais et la fierté qu'ils ont, surtout de l'artiste que je suis, surtout chez les Africains, partout, quoi, à l'aéroport, dans les salons. J'étais à Bruxelles en correspondance d'Ouganda ce matin. Il y a deux nanas qui sont venues me voir en me disant « C'est vous Angélique Kidjo, c'est vous Angélique Kidjo ». Je dis « Oui, mais il faut se calmer là, vous n'allez pas la panique. Hein. » Donc, « On peut prendre une photo avec vous ?» Je dis « Bien sûr ». Donc, il y a eu un peu de panique pour aller trouver l'appareil photo. Je dis, on va se calmer tranquillement. Il y a une dame qui était assise avec Ziz avec nous dans la panique. Elle a cassé le café avec la tasse. Je dis, on va respirer, on va prendre la photo. Il n'y a pas de panique.
Barack Obama, vous l'avez trouvé comment?
C'est quelqu'un de très, très intelligent et d'une brillance qui était un peu surhumaine, je dois dire. Mais en même temps qu'il y avait un sens de l'humour absolument incroyable. Et moi, j'ai été invitée à la Maison Blanche plusieurs fois. Et puis, une fois, elle m'a invitée pour le repas qu'il a fait pour tous les chefs d'État africains. Et à ma table, j'étais assise avec plusieurs ministres et tout ça. Et après le dîner, on a dansé. Donc, il y avait Lionel Richie qui avait chanté pendant le dîner. Et après, il y a le DJ qui a commencé à jouer de la musique et on s'avance tous vers la sortie. Et Barack Obama, il a commencé à danser. Alors tout le monde le regardait danser, moi j'ai commencé à danser avec lui. Et puis il me fait, hé ma soeur, est-ce qu'on va aller complètement en bas là? Je dis, monsieur le président, vous voulez aller jusqu'où par terre là? On y va tout de suite. Et c'est ça, c'est quelqu'un comme ça. Et sa femme le regardait, mais ils sont complètement tarés les deux là.
Michel, elle est capable de descendre aussi très très bas quand elle danse.
Elle a nous a regardé, genre, ne m'appelez même pas. Je fais pas ça, moi.
Et Nelson Mandela, vous l'avez rencontré?
Oui, je l'ai rencontré plusieurs fois. Je l'ai rencontré lors du premier concert qu'on a organisé pour sa fondation qui s'appelle Force 664. C'est le numéro de sa cellule. Et c'est pour récupérer de l'argent, en fait, pour soigner les gens atteints du sida. Et c'était sa façon à lui de reconnaître que quand il était président, il n'avait pas pris conscience de l'ampleur de cette épidémie. Et il s'en est excusé devant tout le peuple sud-africain, devant le monde, en disant, quand je suis arrivé au pouvoir, il y avait tellement de choses à faire que je reconnais que je n'ai pas prêté attention à cette épidémie qui dévaste mon pays et qui a dévasté déjà un peu mon pays. Donc, avant le concert qu'on a fait à Cape Town, on a tous été à Robben Island.
Là où il avait été emprisonné.
Là, c'est difficile, quoi, parce que moi, je n'arrive pas à comprendre comment... Moi, je suis petite, avec ma carrure et la taille que j'ai. Dans cette cellule, je me sens étouffée. Comment lui, il a pu? Il est plus grand que moi, mais comment il a pu? Et le froid constant. On a beau avoir des tennis, des chaussettes d'hiver, on avait froid aux pieds. Il y a un courant d'air de froid qui est constant. Les murs sont glacés, les sols sont glacés. Et la couverture qu'il avait, c'était à peine épais. Donc il y avait Zucchero, il y avait Bono, il y avait Annie Lennox, il y avait Beyoncé, il y avait Peter Gabriel, on était tous là. Mais tout d'un coup, ça nous a frappés, quoi. Tous autant que nous sommes, entre savoir que ce monsieur a passé beaucoup de temps en prison et ce qu'on voit, c'est terrifiant.
Bill Clinton, vous l'avez connu aussi?
Oui, il m'a invité pour sa fondation et on a chanté dans une cathédrale à New York qui s'appelle Saint John the Divine et avec Bon Jovi et puis Eric Clapton. Je l'ai vu avant, il m'a dit, tu vas chanter ce soir? Je dis oui, je vais chanter ce soir. Il dit, j'ai hâte. Et donc j'ai chanté et à un moment donné, je partais et je suis allée lui dire au revoir. Il me dit, ah mais non, tu pars pas. Hein? Je lui dis, pourquoi? Il me dit, mais c'est l'anniversaire de ma femme aujourd'hui. On va lui chanter Happy Birthday, je veux que tu restes. Je lui dis, d'accord. Il me dit, t'es d'où au fait? Je lui ai dit, je suis du Bénin. Il a commencé à me parler de l'histoire.
Du Bénin?
Du Bénin.
Du Dahomey, donc.
Du Dahomey. Et aussi des Haïtiens. Comment les Haïtiens sont liés. Elle m'a parlé, elle me dit des choses. Mais je lui ai dit, mais c'est la première fois que je vois un chef d'État qui connaît tant de choses sur la culture de mes ancêtres. Ça m'a fait vachement plaisir. Et quand il m'a introduit en parlant au public du fait que je venais d'un pays qui était culturellement d'une richesse incroyable, quoi. Et ça m'a vachement touchée.
Europe 1.
On se retrouve juste après les infos avec Angélique Kidjo. On sera à Saint-Maur-des-Fossés, sur la place d'Armes.
Frédéric Taddeï se balade avec Angélique Kidjo sur Europe 1. Europe 1, en balade avec Angélique Kidjo. Frédéric Taddeï.
Nous sommes aujourd'hui en balade avec Angélique Kidjo, la première diva africaine.
Ouais,
c'était Time Magazine qui avait
dit ça.
On est sur la place d'Armes à Saint-Maur-des-Fossés, au Central Park. On a retrouvé David Donatien, le producteur.
Il faut expliquer ce que c'est que Central Park. C'est pas Central Park de New York, c'est le café qui s'appelle Central Park.
Le café qui est juste devant l'église Saint-Nicolas, à deux pas de la maison où habitait Jean-François Bizot, que vous avez bien connu.
Absolument, absolument.
Bonjour David.
Bonjour. Alors,
c'est vous qui avez fait ce disque avec Angélique consacré à Celia Cruz.
Effectivement. Ouais. C'est une belle aventure que Angélique m'a donné la chance de vivre et qui était un beau chemin, vraiment.
Vous aimiez Celia Cruz déjà?
Moi, je suis d'origine martiniquaise. Mon père est martiniquais. Donc Celia et la salsa aux Antilles, c'est quand même la référence de la musique. C'est aussi ce qui a inspiré pas mal aussi la musique antillaise, le compas, etc. Donc c'est oui, Celia. Je l'ai entendu beaucoup de fois.
Vous êtes marié avec Yael Naïm. Est-ce que vous avez essayé de lui faire chanter vous vivez avec Yael Naïm. Est-ce que vous avez essayé de lui faire chanter de la salsa?
Oh là là. Alors, Yael et le rythme. Déjà, c'est pas qu'elle n'est pas douée, mais ça l'agresse, ça la réveille un peu. Et ça la tire sur la mélancolie et donc ça perd les repères. Mais lors de nos tournées au Brésil, elle s'est un poil convertie au rythme.
Ah,
et
oui.
Ça commence à aller mieux.
Ouais. En attendant, vous vengez avec
Angélique
Kidjo.
Moi, j'aime bien ce genre de vengeance parce que je lui ai piqué une année et demie de sa vie, ça me va. Donc, ça va, la vengeance, elle est pour moi. C'est moi qui ai gagné, là.
Qu'est-ce qu'il faut pour chanter de la salsa?
Beaucoup de dynamique, beaucoup de rythme, une énergie intérieure positive. Je veux dire que ce n'est pas que les mélodies qu'il y a à chanter, c'est aussi tout un contexte et toute une force qu'il y a à véhiculer. Et c'est très dur d'avoir ça. Et Angélique, elle est... C'est incroyable, on dirait qu'elle sort de ça, qu'elle a fait ça toute sa vie.
Et que je parle espagnol, n'est-ce pas?
Qu'elle parle espagnol.
Ah, je t'ai eu sur ce coup-là.
Je dis, mais qu'est-ce que tu dis? Je sais pas. Je sais pas. Mais...
Elle sait toujours pas ce qu'elle a chanté.
Toujours pas, mais...
Après Jésus. Jésus,
mais je crois
après.
Qu'il y a des chanteuses comme ça. C'est vrai que quand j'ai travaillé avec Yael, par exemple, au début, même maintenant, l'hébreu, je l'ai jamais compris. Elle a toujours réussi à véhiculer le sens des choses à travers le langage. Et Angélique, elle a forcément ça aussi.
Ici, c'est la ville de Charles Trenet, Saint-Maur-des-Fossés. C'est la ville natale de Vanessa Paradis et de Manu Katché,
oui.
Le batteur.
Oui, je sais. Je sais très bien parce que Manu Katché a été en classe avec la maman de Jean qui était prof d'anglais.
De votre mari, oui.
Ouais. Au lycée Marcin Barthelot.
Eh oui, mais il y a Léopold César Senghor qui était prof aussi
à
Berthelot.
Bah oui.
Ouais, pendant la guerre. Ouais.
C'est la place, c'est l'endroit où il faut être, t'as compris ?
C'est ça, Central Park.
C'est Central Park de la France.
Léopold César Senghor, vous aviez voulu aller consacrer un spectacle ?
Oui, on a fait un spectacle avec Manu Dibango et Isaac de Bancolé. Et en invité, on a eu MHT pour rendre hommage à la femme noire, en fait. Et à un moment donné, vers la fin du spectacle, on a lu la prière de la paix. Léopold Sédar Senghor à Georges Pompidou. Et quand on a fini le spectacle, on est sorti. Il y a un monsieur qui nous a agressé avec Manu et moi. C'est intolérable! C'est inacceptable de te parler aussi mal de la France! J'ai dit, mais tu sors d'où? C'est pas moi qui écris la poésie de Senghor, pourquoi tu m'agresses? C'est un truc de fou, quoi. Je dis, mais laisse tomber. C'était à Avignon, en fait, au Festival d'Avignon.
J'adore quand Angélique parle de tous les gens qu'elle a rencontrés. J'arrête pas de lui poser des questions. Vous êtes comme moi.
Moi, j'hallucine parce qu'à chaque fois, oui, j'ai fait ça. Vous étiez avec sur la Lune. Oui, oui, j'y étais. J'ai fait un concert. J'apprends à chaque fois, évidemment.
Arrête à Franklin.
Si, on a fait un spectacle ensemble à la Radio City Hall pour le centenaire de Nelson Mandela. Et, parce qu'il voyageait plus, en fait. Nous, on nous demande, on me demande de chanter après Aretha Franklin. Et mon mari qui est là, les yeux qui lui sortent de la tête de stress, comme tu sais qu'il peut stresser, il me dit, mais comment tu vas faire après Aretha Franklin? Parce qu'elle a monté la salle là. Alléluia, tout le monde est debout et tout. J'ai dit, mais attends, chanteuse, je suis chanteuse, il n'y a pas de problème. Et Alice Chakiz et moi, on était dans le couloir là pour monter sur scène. Et puis je la regarde, je lui dis, tu as peur? Elle me dit, no way! Je dis, moi non plus! Allez, on va aller les chicoter, les gars! Et elle me dit, mais c'est elle qui nous a ouvert la voie. Donc, si elle chante comme ça, elle chauffe la salle pour nous. C'est à nous d'assurer après. Ce n'est pas un concours, ce n'est pas. Il faut y aller. Et on est monté sur scène. Mais dis donc, on les a chicotés. C'était bien.
Et James Bond?
Oui, oui, je l'ai rencontré. Non, attends, il faut pas.
Elle me tue.
En fait, la première fois j'ai parlé avec James Brown, j'étais en train de faire une interview dans les bureaux du Billboard, du magazine Billboard, et l'éditeur en chef était encore en vie, Timothy White. J'avais fait une interview.
Billboard, il faut le dire, c'est le grand magazine sur le business de la musique. Vous avez fait la couve d'ailleurs,
oui,
hein, de Billboard.
Oui. Et il me dit, j'avais fait une interview 2 mois avant avec lui, et je lui avais dit que j'ai voulu apprendre l'anglais vraiment à l'école à cause de James Brown. Et il a commencé à rigoler. À chaque fois qu'il dit ça aux États-Unis, les gens disent, James Brown, tu apprends l'anglais. James Brown, quand il parle l'anglais, on ne comprend rien. Je dis, mais ce n'est pas comprendre qui m'intéresse chez James Brown. C'est la façon dont il fait swinguer la langue. L'anglais devient un rythme. C'est ça qui m'intéresse dedans. Et il m'a dit, OK, tu ne l'as jamais rencontré. J'ai dit non. Il dit, la prochaine fois que tu viens, je t'organiserai un rendez-vous téléphonique. Je dis, bon, c'est bon, il va dire ça et tout. Et puis, je reviens pour faire la promo. Je pars là-bas. Ils ont préparé ça avec la maison disque. J'arrive, ils me font visiter les bureaux. Et puis, tout d'un coup, ils me font « Mrs. Kijo, you have Mr. Brown on the phone. » Je dis, il me parle à moi, là, l'autre. Je ne parlais pas bien anglais quand je vivais en France. Et puis, la nana de maison disque me dit, « Non, James Brown veut te parler. » Je dis, « Ouais, je suis la Vierge Marie, moi. Ça va pas, non, James Brown me parle, il me connaît ou quoi ?» Et Timothy, ouais, me dit, « Angélique, take the phone. » J'ai pris le téléphone, j'ai compris un mot sur toi. Moi, je ne parlais pas bien anglais. Lui, avec son accent du sud, au bout d'un mois, je dis, je vais paraître comme une conne ici, je vais commencer à chanter. Et j'ai commencé à chanter. Soul, power, soul, power. Et là, je faisais la guitare. Il fait, maman, je faisais toutes les parties. Mais quitte le téléphone, c'est là. Et elle a dit, je veux te rencontrer, coûte que coûte. Et après, on s'est rencontrés. À chaque fois qu'on faisait des festivals où il était là, il me voyait, il me dit, come here, come here. Et je étais là. Et il me parlait toujours, je comprenais rien. L'accent du sud, c'est trop dur pour moi, je t'assure. Donc voilà.
Qu'est-ce que vous voulez boire, Angélique?
Bon, nous, on a déjà œuvré.
David
ouais, je prends un Perrier.
Et Angélique
Vous avez du tilleul?
Non.
Rooibos, ouais, que ça marche, Rooibos, je prends.
Europe 1.
On se retrouve dans un instant. D'ici là, on aura certainement nos consommations.
Frédéric Taddeï se balade avec Angélique Kidjo sur Europe 1.
Tout de suite, Frédéric Taddeï et Angélique Kidjo dans le Val-de-Marne, sur une petite place où ils ont été rejoints par le musicien David Donatien.
Sur la place d'armes de Saint-Maur-des-Fossés, où nous trouvons avec Angélique Kidjo et David Donatien, il y a un manège. Le manège s'est mis en marche, il y a des enfants.
Star Wars, carrément, dis donc.
Ouais. Vous aimez les manèges, Angélique Kidjo?
Non, j'aime pas.
Pourquoi?
Non. Il y a trop de microbes sur les manèges. Même le grand, oui, j'aime pas.
Je crois que vous avez appris à jouer à la pétanque.
À la pétanque, mais alors, le jour où on m'a appris la pétanque, j'ai commencé à mettre des raclées à tout le monde.
Ah bon?
Ah ouais, dis donc. Et les copains de mon mari me disaient, mais t'es sûr quand je dis que c'est pas jouer à la pétanque? Je dis non. Ils ont dit, bon, demain on va revenir, on va tout oublier. Pendant une semaine, je les ai rétamés tous. À chaque fois, et puis après, ils ont dit, on joue plus à la pétanque. Alors quand je rencontre Harry Salvador, il me parle de pétanque.
Oui, Salvador, il joue bien lui.
Je lui ai dit, tu sais, si tu veux jouer à la pétanque avec moi, je vais te filer une raclée. Et elle a dit, alors ma chérie, ça il va falloir que tu te lèves de bonne heure. J'ai dit, alors, mais vas-y, essaye-moi. On n'a jamais eu le temps de le faire. Je dis, non, je l'aurais.
Vous allez chanter avec lui?
Oui, ouais. oui. Quelle voix, quelle expérience. Il m'a appris plein de choses en studio. Il m'a dit comment respirer quand on chante très doucement, proche du micro pour être velouté, comment on gère la respiration pour qu'on n'attende pas quand on respire et quand on chante. C'est un truc de fou. Lui, il vient d'arriver, c'est en studio. Il prend ça, le micro, il est là. Et il chante, on n'entend pas respirer. C'est comme s'il a une histoire d'amour avec le micro, quoi. Il est arrivé, c'était pas prêt. Il s'est mis dans la canapé, il m'a dit, bon, moi je vais, je fais une sieste, les enfants, quand vous êtes prêts, vous me réveillez. J'étais là, je dis, mais c'est pas possible. Moi, je veux faire ça quand j'aurai son âge. J'arrive, je dis, bon, je dors. Et quand vous êtes prêts, vous me dites, je chante. Hein. Boum, une brise. Je dis, bon, d'accord, ça m'énerve. Ça m'énerve, sérieux quoi.
Imagine le monde comme un bébé, caresser et beaucoup pardonner. Imagine le monde comme un bébé, pardonner et beaucoup caresser.
Et Georges Clooney, vous le connaissez?
Si, je l'ai rencontré aussi.
Elle est incroyable.
C'est quoi cette interview là?
Ouais, mais je vais vous raconter.
Attends, le but de l'interview c'est de trouver quelqu'un que t'as pas vu. Mais on a droit, on est allé chercher loin.
Ah non, c'est un repas qu'avait organisé
Nixon. Nixon, qu'est-ce qu'il t'a dit Nixon?
Il est déjà mort lui. un repas qu'avait organisé Bono à Los Angeles. Il m'a dit, écoute, on fait un repas avec tous ceux qui travaillent dans les ONG pour aider l'Afrique. L'eau, dans tous les niveaux. J'arrive, il y avait Oprah, Quincy, Angelina Jolie, Brad Pitt, Ellen DeGeneres, Belinda Gates, George Clooney, il y avait Matt Damon.
Mali Menad arrive, merci beaucoup madame.
Et Sean Penn, voilà, j'étais assise à côté de Sean Penn. Donc, quand George Clooney a commencé à nous parler, c'est ce qu'il a dit, justement, il a dit il y a une crise, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent dans le monde. Ce n'est pas seulement la famine, ce n'est pas seulement le sida, il y a aussi le réchauffement climatique qui demande des ressources. Il y a des choses à faire, il faut passer par les priorités. Qui fait quoi? Et moi, je suis là, je vais organiser tout.
Simplement.
C'était génial.
Et vous, David Donatien, vous connaissez qui, vous?
Cette table-là? Pas Hélène.
Moi.
Déjà Angélique. Puis Hélène, j'ai fait ce show-là déjà aussi. Ouais. Mais le reste, on n'est pas super proches en ce moment avec Georges. On a quelques divergences, on s'appelle moyen. On ne prend pas la même marque de café. Et ça nous a un peu séparés, quoi.
Moi, ce que je veux dire par rapport à tous ces gens que je rencontre, moi, ce que je veux, je remarque chez eux, c'est leur humanité. Leur richesse, leur célébrité, ça, je m'en tape. Et ça, c'est quelque chose que tous, autant qu'ils sont, ils apprécient parce que je ne suis pas là à leur dire « Oh, t'es génial, je ne ferai jamais ça » parce que je sais comment c'est agaçant. Donc, on est là pour faire quelque chose, on le fait, on rigole. Et puis, c'est tout, quoi. Il y avait Ben Affleck aussi qui était là.
Et alors, comment ça se fait que vous avez si peu enregistré de chansons en français ?
Ah, là, moi, la langue française, c'est une langue que j'adore. Et je ne chanterai jamais une chanson française que je ne pourrais pas porter toute ma vie, chanter toute ma vie comme je chante mes chansons. C'est toute cette difficulté de trouver des paroles qui me parlent pour que je puisse parler au français comme je parle.
Vous en avez repris certaines.
Là, j'en ai fait des reprises, c'est sûr.
Mais pas beaucoup, très peu en fait. Il y a ces petits riens, la chanson de Gainsbourg.
Mais moi, si je m'y mets, je m'y mettrai vraiment et je m'y mettrai à ma façon quand je serai inspirée. C'est toujours comme ça. Moi, je ne fais jamais rien parce qu'il faut le faire ou parce que c'est à la mode. Je fais toujours quand je suis inspirée et quand je trouve en face de moi quelqu'un qui partage cette vision.
Et pourquoi ces petits riens ?
J'ai une passion pour l'écriture de Gainsbourg. Parce que les gens disent toujours que la langue française n'est pas facile à chanter. C'est vrai, elle n'est pas facile à parler déjà. Et la chanter encore plus compliquée et la faire sonner. Parce que les paroles, ça ne suffit pas. Il faut que ces paroles aient une mélodie, aient un flux. On peut compter aussi, raconter une histoire aussi en français et il faut trouver les mots. Parce que pour raconter une histoire, quand on l'écrit, quand on lit une histoire, on compte, c'est des mots après des mots. Mais dans une chanson, on ne peut pas mettre tout ça. Mais comment on arrive à aller à l'essence de ce qu'on veut dire avec peu de mots? Et Gainsbourg, il a l'art et la manière de le faire. C'est un truc de fou. J'ai découvert Gainsbourg quand je suis arrivée ici parce que quand la dictature communiste est arrivée, sa musique n'est jamais arrivée chez moi.
La dictature communiste, c'était au Bénin, hein, au Bénin 72. Hein,
72 jusqu'à 1990. Moi, je suis partie en 1983. Donc, quand je suis arrivée à Paris, entre Bachung, Higelin, Nougaro, Gainsbourg, j'écoutais, mais j'étais très attentive aux paroles. Parce que quand je suis arrivée, tous les copains de Code Musique, ils me charriaient tout le temps. « Ouais, toi, tu parles français, tu as besoin d'une encyclopédie pour te comprendre. » Je dis « Mais c'est la langue de tes ancêtres, si tu n'as pas la parler, ce n'est pas mon problème, quoi. Oh, faut me lâcher un peu. » Et moi, c'est la beauté de la langue française, mais mis avec les mots de tous les jours pour que tous les Français puissent le comprendre. Et c'est ça la magie de Gainsbourg. S'il avait été encore vivant, j'aurais chanté en français depuis longtemps. Je l'aurais tellement tanné qu'il aurait même fait la musique. Il va m'écrire tant même la musique là.
Mieux vaut ne penser à rien que de pas penser du tout. Rien c'est déjà rien, c'est déjà beaucoup. On ne se souvient de rien et puisqu'on oublie tout. Rien c'est bien mieux que tout. Mieux vaut ne penser à rien que de penser à vous. Ça ne me vaut rien du tout. Mais comme si de rien n'était, je pense à tout. Ces petits riens qui me venaient de vous. Si c'était trois fois rien entre nous. Évidemment, ça ne fait pas beaucoup. Ce sont ces petits riens que j'ai mis bout à bout. Ces petits riens qui me venaient de vous. Mieux vaut pleurer de rien que de rire de tout. Pleurer pour rien, c'est déjà beaucoup. Mais vous, vous n'avez rien dans le cœur et j'avoue, je vous envie, je vous en veux beaucoup. Ce sont ces petits riens qui me venaient de vous. Les voulez-vous, tenez, que voulez-vous? Moi, je ne veux pour rien au monde, plus rien de vous. Pour être à vous, faut être à moitié fou.
C'était Angélique Kidjo qui chantait du Gainsbourg, Ces petits riens.
Frédéric Taddeï se balade avec Angélique Kidjo sur Europe 1.
Il nous reste encore quelques minutes pour en apprendre plus sur la chanteuse béninoise Angélique Kidjo en balade avec Frédéric Tadei jusqu'à midi et demi.
Nous sommes toujours à Saint-Maur-des-Fossés avec Angélique Kidjo et David Donatien. On l'a entendu chanter en espagnol sur son nouvel album consacré à Celia Cruz, produit par David. On vous a entendu chanter en anglais. Vous chantez en faune aussi. On dit faune ou fond?
Fond.
En fond. En yoruba.
En yoruba, mina et en gbou.
Ouais. En quoi d'autre?
En portugais français. Aussi, ouais. Je chante en portugais.
Et vous avez fait quelques chansons brésiliennes d'ailleurs. Mm-hmm.
Moi, les langues, c'est pas compliqué pour moi parce que c'est la mélodie que j'écoute, la mélodie des langues. Quand on fait de la musique, c'est ça le plus important en fait. Quand on n'entend pas la mélodie de la langue, on ne peut pas la chanter non plus. C'est-à-dire qu'il faut, être. On entend la mélodie, on se l'approprie, on la rend différemment. Et c'est pour ça que j'ai une facilité pour chanter dans toutes les langues en fait, parce que je ne connais pas beaucoup d'Africains qui ne parlent pas un minimum de 3-4 langues. Parce que d'un village à un autre, ça change.
David, il faut la diriger quand on produit Angélique
Non.
Non, c'est incroyable parce que... Bah déjà, c'est une grande professionnelle, ça c'est sûr. Et c'est sa voix qui dirige, en fait. Moi, j'ai rien à diriger du tout.
Il faut la suivre, en fait, c'est ça, plutôt.
Il faut être à la hauteur de cette énergie-là. C'était ça, le vrai challenge. Je veux dire, quand même, une voix aussi énergique, aussi dynamique, il faut que la musique puisse suivre, parce que sinon, ça peut paraître plat. Donc, il faut réussir à être présent, dynamique, mais sans écraser cette voix. Et puisque c'est assez extraordinaire qu'on voit l'énergie qu'elle a là, lorsqu'elle est en studio, elle est tellement professionnelle qu'on peut demander n'importe quoi et il n'y a pas de discussion. Elle le fait juste, donc c'est juste un plaisir. Surtout moi, j'ai travaillé avec ma compagne depuis 15 ans.
Yael Naïm.
Elle n'écoute pas comme ça. Hein. Donc si tu pouvais faire un truc pour moi, c'est
on va causer, je vais causer avec elle. Déjà, je lui ai pris une année et demie pour travailler avec toi. Non, mais c'est un bonheur aussi de travailler avec David Donatien. Je ne le dis pas pour lui faire plaisir. J'ai eu beaucoup de producteurs. Dès que j'ai commencé...
Et pas des moindres, hein. Bill Laswell, Chris Blackwell. Pas des moindres,
mais ça a toujours été des conflits. Des conflits parce que j'ai une idée de ce que j'ai envie de faire. Je ne dis pas que je suis dans le vrai, je dis essayons. Si ça ne marche pas, dis-moi ce que toi tu ne comprends pas. Laisse-moi te présenter ce que je veux. Et c'est toujours compliqué. Je me rappellerai toujours quand on a produit l'album Aïe, la chanson Agolo. On a commencé à faire la chanson, j'ai posé les voix témoins, je suis partie le lendemain, j'arrive, le producteur avait complètement changé. Je dis, moi je ne chante pas ça, ce n'est pas la chanson que j'ai écrite. Il me dit, ah si c'est pas comme ça, je dis, c'est pas toi qui choisis pour moi. Il dit, je vais envoyer ça à Chris Blackwell, j'étais d'accord. Il envoie le truc à Chris Blackwell et Chris Blackwell répond 10 minutes après, il dit, mais si cette chanson doit être comme ça, il faut laisser Jean et Angélique produire le disque. Je dis, t'as entendu? Non mais c'est un truc de fou quoi. Je veux chanter avec mes tripes et mon cœur. C'est-à-dire que chanter pour moi, ce n'est pas seulement être sur scène, être jolie. Je veux que les gens, même s'ils ne comprennent pas ma langue, qu'ils comprennent par l'émotion ce que j'essaye de dire. Et pour faire ça, il faut être dans sa propre vérité. Il ne faut pas qu'il y ait d'ombre. Et il faut que on trouve un producteur qui est capable, comme il l'a dit, qui est capable de porter ça avec vous. Et ça a été pour moi un plaisir. Je ne lui dirai jamais assez merci pour ça. C'est le premier disque que j'ai fait sans avoir de stress.
Ah oui, à ce point-là.
C'est un truc de fou. C'est, je l'ai dit à mon mari il y a quelques jours, j'ai dit, mais tu te rends compte? On a fait cet album avec David Donatien sans stress. Le nombre de fois on a stress, on s'est couché, on s'est dit, mais putain, mais comment on va faire ce truc? Comment on va faire cela? Et tout. Surtout Black Avery Soul. J'étais en conflit constant avec Bill Laswell.
Et
c'était un truc de fou. Attends, il me met les mêmes percussions sur toutes les chansons avec lui. Mais j'ai dit, mais attendez, moi je comprends pas. Je dis peut-être pas la musique, mais les percussions, je les comprends. Mais tu vas pas me mettre sur un morceau lent la même percussion que sur un morceau rapide ou sur un morceau... C'est un truc de fou. Et je me suis dit, si tout le monde pouvait comme David Donatien, je ferais des 10 tous les ans.
Oui, parce que c'est vrai que vous n'en avez fait que 12. Hein.
Oh ouais, ça, c'est ça chauffe, là. Quand je fais les 12 que j'ai fait, là, il y a le premier que j'ai fait avec Logozo que vous avez aimé. Le travail qu'on a fait avec Joe Galdo, c'était pas mal. Mais au départ, c'était un conflit direct parce que lui, c'est un percussionniste cubain. Donc il voulait commencer à monter mes chansons avec la batterie. Je dis, ah non, non, hein. Je t'ai donné percu, vois, tu mets la percu, la batterie s'adapte à la percu. Non, mais je ne veux pas te déconner. Mais je n'ai jamais fait ça. Je dis, vas-y, essaye, essaye. Qu'est-ce que ça te coûte? Le premier morceau, il a fait, le lendemain, il arrive, il me dit, mais ça, c'est le pied total. Je dis, ben voilà, eh, comme ça, on va faire. Et lui, il est percu, là. J'adore le jouer, le voir jouer parce qu'il est...
Avec David?
Il est... Tant le temps, il chicote le temps. C'est bon. On l'adore.
Eh ben merci Angélique Kidjo de nous avoir emmené en balade avec vous. Merci.
Sous la pluie.
Sous la pluie. Merci.
I'm David Tenassian, merci in the rain.
D'avoir chicoté tout ça.
In the rain.
Vous allez être en tournée en France. Vous serez en concert de clôture du festival Rio Loco La Voix des Femmes le 16 juin à Toulouse. Pour la première fois, ce sera une édition 100% féminine. Je rappelle que votre nouvel album s'intitule Célia et que c'est un hommage à Célia Cruz. On remercie également le Central Park, on remercie votre mari, Jean, de bien avoir voulu parler.
Vous l'avez eu par surprise, vous... Jean, il n'aime pas parler.
Bon dimanche et rendez-vous dimanche prochain à 11h pour une autre balade.
À dimanche prochain, Frédéric. En attendant, si vous voulez réécouter cette balade, vous le pouvez hein, sur notre site europe1.fr.